Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production? Quels sont les fondements du commerce international? L'échange international de produits différents. Historiquement, les premiers flux commerciaux et les premières théories du commerce international se sont concentrés sur les échanges entre pays différents. Dès 1817, Ricardo propose une analyse originale du commerce international. Pour lui, il est mutuellement bénéfique car chaque pays se spécialise dans la production où il est relativement le plus fort. Les pays ont intérêt à échanger dès lors que chacun a une spécialisation dans les productions où il possède des avantages en termes de coûts relatifs. C'est le début de la théorie des avantages comparatifs. Au XXe siècle, d'autres auteurs, théorie HOS, du nom de trois économistes, Elie Heckscher, Bertil Hollin et Paul Samuelson, moderniseront cette théorie en recherchant les causes de ces avantages comparatifs, notamment par les différences de dotation factorielle. La cause de la spécialisation de chaque pays dans telle ou telle production proviendrait de l'abondance ou de la rareté relative des facteurs de production. Mais il est possible aussi de mettre en avant l'importance des différences de dotation technologique. De ce point de vue, la spécialisation s'expliquerait par le niveau technologique atteint par un pays. Le type d'insertion de chaque pays dans le commerce international serait donc lié au degré d'avance technologique de chacun. L'échange international entre pays comparables. Dès lors, si le commerce international s'explique avant tout par les différences entre pays qui échangent des produits différents, drap contre vin dans l'exemple de David Ricardo, ce qui correspond au commerce interbranche, comment expliquer la domination du commerce intrabranche dans les échanges internationaux et que ceci se fasse entre pays ou territoires ayant des structures productives et technologiques comparables? La réponse se trouve à la fois dans le mode de production et la nature des biens échangés. En effet, la différenciation de plus en plus grande des produits, aussi bien en termes de qualité que de variété, ainsi que le développement de l'internationalisation du processus productif, conduisent à la multiplication de tels échanges. C'est le résultat à la fois de la transformation des appareils productifs et de la demande de différenciation et de diversité de la part des consommateurs. Ces derniers émettent une demande pour des produits diversifiés de plus en plus finement, et les biens étrangers vont y répondre. Le commerce interbranche et le commerce intrabranche cohabitent, puisque certains flux de commerce s'expliquent par les différences de produits, alors que d'autres échanges s'expliquent par la similitude des produits et des territoires. Quels sont les facteurs à l'origine de l'internationalisation de la production ? Les liens entre productivité des entreprises et compétitivité des pays. Avec l'ouverture croissante des échanges et la baisse des coûts des transports liés à la mondialisation, les firmes voient la pression concurrentielle s'accroître. La compétitivité des pays est étroitement liée à la capacité des entreprises et des acteurs économiques à apparaître comme les plus efficaces. Deux types de compétitivité sont à distinguer. La compétitivité prix, essentiellement liée au coût de production, et la compétitivité hors prix, qui prend en compte de multiples facteurs. Les entreprises vont donc chercher à améliorer leur productivité afin de maintenir leur part de marché. Ce faisant, elles sont amenées à chercher parmi les pays ceux qui présentent les meilleurs avantages comparatifs pour chacune des phases de ce processus. Elles deviennent donc des firmes multinationales. L'internationalisation de la chaîne de valeur accroît les échanges internationaux. cette internationalisation de la production amène la chaîne de valeur à s'internationaliser et à se fragmenter de manière croissante. Le même produit, au cours de son processus de production, va franchir de multiples frontières. Pensé et créé dans un pays du Nord, il peut ainsi être assemblé dans plusieurs pays d'Asie, avant de revenir pour être distribué dans les pays du Nord. Cette situation a des conséquences, notamment sur la comptabilité du commerce international, qui est ainsi amenée à surestimer certains flux commerciaux. Il existe de plus en plus de mesures du commerce international évaluées en valeur ajoutée. Quels sont les effets du commerce international ? Les effets induits du commerce international sur les consommateurs et les producteurs. La multiplication des échanges associés à ces transformations du processus productif, phénomène lié à la mondialisation, a de multiples conséquences, et notamment sur les producteurs et les consommateurs, à court et long terme. En effet, à court terme, sous les effets conjugués de la spécialisation et de l'augmentation de la compétition au sein des marchés concurrentiels permises par le commerce international, les prix ont tendance à baisser. Ceci bénéficie évidemment aux consommateurs, mais aussi aux producteurs qui voient le prix de leurs biens intermédiaires baisser. Mais dans le même temps et à plus long terme, les firmes subissent une concurrence accrue qui les oblige à modifier leur processus de production, délocalisation, à innover ou, pour les moins performantes, à disparaître, ce qui a également de multiples conséquences. Les effets induits du commerce international sur les inégalités. Pour certains secteurs et acteurs économiques, notamment les moins aptes à s'adapter, l'ouverture internationale peut avoir des conséquences importantes. Faillite, pression à la baisse sur les salaires, augmentation du chômage. Et par là même, elle a conduit à une augmentation des inégalités internes à certains pays, notamment entre travailleurs qualifiés et non qualifiés, territoires et secteurs exposés à la concurrence ou épargnés. Mais les effets sur les inégalités de l'ouverture internationale sont complexes, puisque celle-ci, en permettant la croissance et le développement de certains pays émergents, notamment asiatiques, a conduit une part non négligeable de la population mondiale à sortir de la pauvreté en réduisant ainsi les inégalités entre certains pays. Et dans le même temps, le commerce international a conduit à favoriser encore davantage la position des mieux dotés. Le débat entre libre-échange et protectionnisme. Comme le montre l'actualité récente, ces effets sur les inégalités ont contribué à réactiver un débat ancien, opposant les tenants du libre-échange aux défenseurs du protectionnisme. Les premiers mettent en avant les gains à l'échange, liés à l'ouverture internationale, alors que les seconds vont défendre la limitation de cette ouverture, afin de protéger les secteurs et les acteurs pour lesquels le commerce international peut présenter un danger à court ou long terme. Le besoin de protection sera d'autant plus facilement mis en avant que les catégories qui bénéficient de la protection sont réduites, alors que les bénéfices du libre-échange sont plus diffus. Ils seront donc plus facilement entendus. Chacune de ces positions présente des avantages et des inconvénients, mais pas pour les mêmes acteurs, producteurs nationaux ou étrangers, consommateurs, et laisse une place importante aux régulations étatiques pour corriger les effets perçus comme négatifs du commerce international.